Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus.
Vous êtes en direct d'une émission exclusive préparée par des étudiants de Paris 1, Paroles sans frontières.
Ici on les libère.
Paroles sans frontières.
Vous êtes bien sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
Commençons dès à présent notre voyage, traversant les frontières. Entre séparation, histoire, cinéma.
Les frontières sont décidément un vaste sujet.
Ce voyage sera présenté par nous-mêmes, Néhémie et Thélem, vos fantastiques guides touristiques pour ce voyage.
Nous vous avons mis l'eau à la bouche.
Vous êtes intrigués ?
Nous aussi.
Jingle !
Paroles sans frontières.
Commençons donc de ce pas avec Maria qui abordera le besoin de dépasser ses frontières. Bonjour Maria, c'est à vous.
Bonjour. Frontières, pourquoi les dépasser ? Ou mieux dit, faut-il les dépasser ? Tous les jours, on passe par des inconnus. Dans le métro, à la boulangerie, les uns ont des accents qui ne ressemblent pas du tout à celui français et les autres ne parlent même pas français. J'entends presque tous les jours des petits mots en espagnol ou en italien et je me demande, les frontières culturelles, pourquoi existent-elles ? Faut-il assimiler entièrement une culture quand on vit dans un pays étranger ou bien faut-il trouver un moyen de compléter notre culture avec celle nouvelle ? Vous allez écouter le témoignage d'un ami qui a vécu pendant toute sa vie entre deux cultures. Témoignage qui pourrait nous répondre à la question que je me suis posée. Comment peut-on concilier d'être sur les deux côtés de la frontière ? Comment peut-on créer une vie entre deux cultures ?
Alors, à la maison, j'ai gardé en parlant tamoul. À l'école, avec mes amis ou à l'extérieur, j'utilise surtout l'allemand. Plus précisément, le suisse-allemand. Mais je ne me sens pas vraiment suisse. Parce que je connais beaucoup de choses suisses, mais je ne les ai pas faites. Par exemple, je ne fais pas de ski, je ne fête pas Noël, et je ne mange pas le plat typique suisse. Et d'un autre côté, je vis fortement ma culture tamoul. Je participe à des activités religieuses, je mange des plats traditionnels à la maison, et je pars beaucoup avec des gens qui aiment ça aussi. Pourtant, il me manque quelque chose. Comme je ne suis pas au Sri Lanka et que mon présence là-bas est importante, j'ai l'impression que mon appartenance est ainsi un nouveau mélange. Je n'appartiens pas ni à la Suisse, mais pas non plus au Tamil. C'est plutôt du 50-50.
Si je me suis posé la question d'être sur les deux côtés de la frontière, c'est parce que je me trouve maintenant dans une situation dans laquelle je ne me suis jamais retrouvée. Je me sens plus française et moins roumaine. J'ai vécu pendant 18 ans en Roumanie. J'ai vécu toutes les belles traditions qu'on a, j'ai parlé la langue et j'aimais la parler. Et pourtant, depuis les 2 années que je vis en France, j'ai que les beaux souvenirs de ma culture qu'il me reste. Comment puis-je vivre ma culture roumaine alors que tout ce qu'il me reste, c'est que de la nostalgie ? Et comment puis-je vivre la culture française si je n'ai pas grandi en parlant la langue, si je confonds les articles et des mots, et je ne sens pas quand j'en fais une erreur, parce qu'il n'est pas naturel pour moi de parler le français. Et pourtant, entre un merci et une bonne journée et le sourire d'un inconnu, je sens comment cette culture m'a envahi, me serre entre ses bras et me fait des câlins, comme une mère avec son bébé. Le problème que ce paradoxe pose, c'est un problème d'identité. Et malgré le fait que j'ai pris 2 cours sur l'identité personnelle dans mes études de philosophie, je n'arrive pas encore à donner une réponse. Qu'est-ce qui nous fait d'être nous-mêmes ? Comment peut-on nous reconnaître ? Même si dans la vie de tous les jours, on arrive facilement à identifier notre ami, la théorie pose des problèmes. Parce que si on suit le raisonnement de Leibniz, chacun d'entre nous est une monade. Une monade, c'est, selon lui, une substance indivisible qui est unique de tous les autres et qui peut être reconnue par le seul fait qu'elle est elle. Donc, nous sommes nous par le seul fait d'être nous-mêmes. Donc, le problème est loin d'être résolu, parce qu'on ne sait pas encore qui nous sommes. Un conte irlandais raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Brian et qui tombe amoureux d'une femme d'un autre pays. Brian aimait l'Irlande du fond de son cœur, mais personne ne pouvait lui convaincre de ne pas quitter le pays pour sa femme. Lors de son départ, sa mère lui avertit que s'il part, ne pourra jamais être reconnu comme Irlandais. Il ne pourra même pas lui-même se reconnaître comme Irlandais. Parce que les Irlandais aiment leur pays et luttent pour lui, peu importe les conséquences. Brian part, mais il retourne 10 ans après. Tout était le même, ses voisins, son arbre d'enfance, tout. mais quand il dit bonjour à sa voisine, elle a demandé « Qui es-tu ?» Personne ne le reconnaissait alors que rien n'a changé. Il n'était plus irlandais, mais qui était lui ? L'Irlande porte avec elle un grand passé colonial et pourtant elle arrive à garder sa substance. Le problème commence quand on ne peut plus distinguer l'origine de certaines valeurs ou même des traditions et des fêtes parce qu'ils se sont perdus à travers le temps avec sa colonisation anglaise. Maintenant, nous allons écouter le témoignage d'une amie qui a grandi en parlant la plupart du temps français alors qu'elle a vécu au Maroc.
Donc, quand je suis arrivée en France, j'ai beaucoup discuté avec des Français, des étudiants à l'international. Et mes amis étaient très étonnés du fait que je n'ai pas vraiment de connaissances ni en langue, ni en histoire de mon pays où j'ai grandi. Et effectivement, je ne pouvais pas répondre à plusieurs de leurs questions sur mon pays. Et c'est ce qui m'a poussée à m'interroger sur mon identité. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais là alors que mon pays a vraiment une histoire, un passé colonial avec la France.
Il me semble très important de prendre connaissance des autres cultures, de voir comment elles ont évolué, qu'est-ce qui est caractéristique pour elles. Il est important de poser la question de la frontière pour bien identifier les caractéristiques de chaque culture, de voir leurs différences, de pouvoir plus apprendre et de ne pas rester ignorant à la multitude de cultures et d'identités culturelles qui existent. Parce qu'on vit dans un monde globalisé, on vit autour de cultures différentes des nôtres, mais des fois, on ne se rend pas compte et on est plus curieux, ce qui entraîne un échec d'inclusion dans la société. L'identité culturelle est une fiction qu'on se crée soi-même à travers les années. On prend de petites parties de chaque culture et on l'ajoute à la nôtre. Chaque expérience de voyage nous crée la fiction de notre identité. On a en nous toutes les références des films américains, la fête du 14 juillet, et moi, j'ai en moi les beaux souvenirs créés en Roumanie, nos beaux paysages et notre respire d'ensemble. Je fais partie de chaque culture que j'ai connue et j'en serai une pendant toute ma vie. C'est la beauté de la globalisation et la croix qu'on a portée tous les jours. Jamais s'identifier à une culture, mais savoir qu'on est partie de toutes.
Et d'après toi, l'identité culturelle, elle doit-elle se structurer nos vies ?
En fait, je pense que même si c'est une partie importante de notre vie, elle ne doit pas structurer complètement notre vie. C'est juste quelque chose qui nous fait, mais pas quelque chose qui nous définit. C'est qu'une petite partie de nous.
Merci Maria pour cette chronique saisissante.
Et maintenant, Olga va nous présenter les frontières un peu différentes.
Oui, quand je pense aux frontières, je pense peut-être, comme la plupart d'entre vous, aux frontières cartographiées. Je pense aux frontières entre pays et aux barrières qui vont avec, celles d'une langue qu'on n'a jamais apprise, celles d'une culture inconnue. Souvent, on désigne quelque chose que l'on ne connaît pas en l'opposant à ce qui nous est familier. On dit « ce n'est pas ma culture, ce n'est pas ma langue maternelle ». Et alors l'autre culture, l'autre langue, celle qui n'est pas la nôtre, devient différente. C'est à partir de cette idée de différence que j'ai envie que l'on s'intéresse aujourd'hui à d'autres frontières quotidiennes, qui sont aussi relativement atemporelles. Aujourd'hui, j'aimerais parler des frontières créées par les identités de genre, féminine et masculine. C'est une opposition binaire à laquelle on se confronte tous, et en fait, c'est une frontière qui dépasse les frontières. Alors cette petite chronique est une proposition de réflexion sur ça, c'est parce que le genre est un sujet auquel je m'intéresse que je vous en parle, mais il peut être abordé de plusieurs manières et je veux simplement vous emmener dans une petite exploration. Et puis vous allez le voir, surtout au début je vais citer quelques sociologues, c'est disons une déformation de formation avec mes études en sciences sociales. Commençons donc notre exploration de manière un peu chronologique. On est, il me semble, confronté très tôt aux frontières créées par le genre. La sociologue italienne Elena Giannini Bellotti montrait que les conduites autour des garçons et des filles n'étaient pas identiques dès la grossesse. On pense par exemple aux couleurs, au rose et au bleu. Les choses changent évidemment un petit peu, mais cette dichotomie entre couleurs est encore un moyen assez puissant de signifier la différence. Ensuite, il y a les jouets. J'aime bien cette expression de la sociologue Muriel Darmon qui dit que les catalogues de jouets sont un musée grévin de la différence sexuée. Sylvie Cromer, encore une autre sociologue, montre que les jouets féminins développent l'intérêt porté à soi et aux autres en mettant en avant la séduction et la maternité. Ceux des garçons invitent plutôt à la manipulabilité, l'invention, le goût de l'aventure. C'est un peu, si vous voulez, la poupée Barbie versus le camion de police en Lego. Il me semble que toutes ces distinctions se maintiennent dans nos manières d'être et de paraître, de la manière dont on s'habille et aux carrières professionnelles qui s'ouvrent à nous. Un certain nombre d'auteurs féministes vont d'ailleurs montrer que la différence entre les genres est construite et instituée par une pratique sociale. On a finalement comme deux catégories, la féminité et la masculinité, qui font passer du social pour du naturel. Elles vont aussi donner un sens à pas mal de nos représentations. Par exemple, si je dis délicatesse, intuition ou même émotion, vous et moi pensons peut-être d'abord à la féminité, parce qu'on a été confrontés à des normes sociales qui mettent plutôt la force physique, le courage, du côté de la masculinité.
Et alors, est-ce qu'on peut traverser ces frontières ?
Oui, je viens de parler des identités de genre de manière binaire, mais aujourd'hui, il me semble qu'une traversée des frontières est possible. On peut s'identifier non-binaire, genderqueer ou genderfluid, et en faisant ça, on déverrouille des associations qu'on pensait naturelles. On montre que les barrières sont franchissables ou amovibles. Peut-être que vous connaissez justement la philosophe Judith Butler, qui est un peu dans les études sur le genre ce que Michael Jackson est à la musique pop américaine. J'exagère peut-être un tout petit peu, mais ses écrits sont notamment super importants pour la théorie et les mouvements queer. Elle a pensé le concept de performativité du genre. Ça veut dire que le genre est mis en œuvre par des actions, des discours et des comportements quotidiens. En gros, on ne peut pas être sans faire. Ça veut aussi dire que les identités ne sont pas fixes ou immuables parce qu'on est constamment en train de les créer. Donc elles sont ouvertes aux ressignifications, elles sont fluides. Et tout ça me fait penser, et vous fait peut-être aussi penser, à une expression artistique que l'on appelle le drag. Et pour comprendre ce qu'est le drag, eh bien, je vous propose d'écouter la belle définition de Paloma, qui est une artiste et la drag queen victorieuse de la première saison de Drag Race France. C'était au micro de Xavier Mauduy dans l'émission Le cours de l'histoire, diffusée sur France Culture le 3 février 2023.
Et ben moi, je dirais que le drag, c'est un véhicule pour faire plein de choses. C'est se créer une carapace de super-héros. Il n'y a pas forcément... pas besoin de s'habiller en femme, par exemple. Beaucoup de gens disent « Ah bah, tu t'habilles en femme ?» Bah oui, mais je pourrais aussi m'habiller en homme ou en personnage non genré. Mais c'est une extension de soi fantasque et un peu irréelle. Voilà, c'est ça.
Un véhicule donc pour faire plein de choses, nous dit Paloma. Et en fait, le drag traduit assez bien ces possibilités de subversion du genre que la performativité permet. Ce que je trouve assez formidable aussi, c'est qu'on voit bien que les normes de genre ont quelque chose d'absurde. On peut les construire, les déconstruire, on peut aussi jouer avec les stéréotypes de manière un peu satirique. Et peut-être qu'au-delà de la scène du drag, on pourrait dire que l'on est tous un peu des acteurs dans le théâtre infini du genre, dans une pièce qui dure pour toujours, avec de multiples actes dans lesquels on devrait pouvoir se réinventer, changer de rôle. Mais les frontières sont aussi politiques, et je vous avoue que je ne pouvais pas terminer notre petite exploration sans m'interroger. Et peut-être que vous vous posez la même question, est-ce que la performance est toujours libre ? C'est une question un peu rhétorique, parce qu'on sait qu'il y a des contraintes institutionnelles qui sont plus ou moins fortes selon les pays, et qui sont toujours là pour délimiter l'espace du possible. Si par exemple demain je veux changer de nom, je sais que je vais devoir... faire face à un processus administratif très complexe qu'il faut avoir le courage d'affronter. Au-delà de tout ça, même si on n'est pas amené nous-mêmes à traverser les frontières, on peut défendre et soutenir ceux qui le font, et donc on peut se joindre à une sorte de coalition ouverte. Je voulais, pour conclure, vous partager une petite information que vous noterez peut-être dans votre agenda. Judith Butler, dont on a parlé, était l'invitée du Centre Pompidou pour une série de rencontres. Elle devait rencontrer en novembre le philosophe Paul B. Preciado pour parler de la notion de genre. Et la rencontre n'a pas eu lieu, malheureusement, mais a été reportée en avril.
Nous te remercions, Olga, d'avoir développé tous ces éléments sociologiques. Avant de poursuivre, petite musique bien dans le thème, Frontières de Yannick Noah.
Parole sans frontières.
Je vous parle d'un monde qui n'existe pas, un monde où les frontières ne diviseraient pas. La moindre différence comme unique richesse, sans barrière, sans bannière,
inutile forteresse. Partager le même soleil, s'éveiller sous le même arc-en-ciel, espérer. Je vous parle d'un monde qu'il ne faudra construire, que tant d'hommes avant nous ont rêvé de bâtir. Infantile utopie ou combat d'une vie, les ténèbres ou l'amour, c'est à nous de choisir. Partager le même soleil, espérer la même lumière, redessiner d'autres frontières. Où sont les différences dans les cœurs des enfants, de là-bas ou d'ailleurs, d'hier ou maintenant? L'autre est de mon rang, de mon sang c'est un frère. Il n'y a vu du ciel aucune ligne sur la terre.
Sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Nous allons cette fois-ci dériver à la recherche des vestiges archéologiques. Et pour ce faire, suivons la quête de Antoine et son interview. La parole est à toi.
Bonjour Marc Bouilleron, vous êtes archéologue spécialisé sur l'évolution urbaine des villes du Midi de la France, de l'Antiquité à la période moderne. Vous avez d'abord fouillé avec le service archéologique de la ville de Marseille, puis à Nice, notamment sur la colline du château de Nice. En 2015, vous entrez à l'INRAP, l'Institut National d'Archéologie Préventive. Depuis 2018, vous êtes directeur scientifique et technique de ce même institut. En novembre 2023, vous avez publié un atlas archéologique de la France, co-dirigé avec Dominique Garcia aux éditions Talendier et INRAP. Cet ouvrage tente d'abord, à travers des cartes de la France métropolitaine, mais aussi des Outre-mer, d'explorer des thématiques propres à chaque période préhistorique, historique et d'aborder le futur de l'archéologie dans une dernière partie. Est-ce que c'est l'accélération des fouilles archéologiques depuis la mise en place de l'archéologie préventive à la fin du siècle dernier qui permet une restitution aussi complète du territoire français grâce aux cartes ?
Alors bonjour, merci pour cette présentation et cette première question. Effectivement, c'est l'accélération des découvertes archéologiques grâce à la loi sur l'archéologie préventive, donc qui a été mise en place en 2001, la construction d'un véritable dispositif, la création de l'INRAP en particulier, mais ensuite la mise en place d'un secteur concurrentiel dans le domaine des fouilles archéologiques. Et donc ça a démultiplié totalement le nombre d'interventions qui a été réalisées. En parallèle du nombre d'interventions, mais ça veut dire aussi qu'il y a des rapports d'opération, qu'il y a une réflexion scientifique site par site. Et au bout de 20 ans, on a eu enfin la possibilité de commencer à travailler à une autre échelle que celle du site ou d'une région pour essayer d'appréhender ça de manière plus diachronique et sur l'ensemble du territoire national.
Comment on passe du site archéologique sur une zone assez restreinte à des cartes sur un territoire aussi grand que la France ?
Alors, ça nécessite plusieurs choses. D'abord, évidemment, que les opérations archéologiques soient bien faites et soient bien documentées. Donc, à chaque fois, on a un rapport d'opération qui est rendu. Ce rapport, on l'indexe, nous, dans une base de données qui s'appelle Dolia, qui est indexée par des documentalistes. Et donc, on va avoir, pour chaque rapport, les périodes chronologiques concernées, les thématiques, les territoires, éventuellement, qui sont concernés par l'opération, lorsqu'on est sur du linéaire, par exemple. Et quand on reprend l'ensemble des données de cette base, donc ce qu'on a fait, hein, puisqu'on est reparti de l'ensemble des rapports depuis plus de 20 ans, on arrive à 37 000 enregistrements. Et 37 000 enregistrements, quand on commence à les mettre sur une carte, ça commence à faire beaucoup de points. Voilà, donc ça a été notre base de départ. Et puis après, en jouant sur les questions de chronologie des sites et puis des thématiques qui sont abordées, on est arrivé à construire ces cartes époque par époque et puis thématique par thématique.
Mais aujourd'hui, l'INRAP, c'est 2000 fouilles par an, mais il n'y a pas seulement les données de l'INRAP qui sont renseignées dans les cartes, c'est ça ?
Alors, c'est 2000 opérations, hein, pas fouilles. Oui. On est plutôt sur 200 fouilles par an. Bien évidemment, on s'en est pas tenu uniquement aux données de l'INRAP. Ça, c'est, on va dire que c'était le cœur et le départ de la réflexion. Chaque auteur, puisqu'on a un auteur par période, chaque auteur est allé chercher aussi des fonds de cartes complémentaires, des données sous forme de base de données ou sous forme de cartes déjà réalisées, qui ont servi à construire chacune des cartes qui sont présentées dans l'atlas. Et donc, ça fait effectivement un ensemble de données qui se nourrit de ces sites liés à l'archéologie préventive, mais qui se nourrit aussi des données patrimoniales. Par exemple, on verra la grotte Chauvet ou le pont du Gard sur lequel on n'est pas intervenu en tant qu'INRAP. Mais tout ça contribue finalement à documenter les territoires au fur et à mesure de leur histoire, depuis la préhistoire la plus ancienne jusqu'à nos jours pratiquement.
Et pourquoi s'arrêter aux frontières de la France ? Enfin, les frontières sont mouvantes au cours de l'histoire et on a les périodes les plus anciennes qui doivent être étudiées dans un contexte plus large.
Alors, c'est en fait une question, je dirais, de documentation et de données. Si on veut quelque chose d'homogène, il faut qu'on soit sur un territoire cohérent. Et le territoire qu'on maîtrise, c'est celui qui, administrativement, est la France actuelle. Mmh. Et quand je dis France, c'est l'Hexagone et les Outre-mer, puisqu'on a aussi des cartes sur les Antilles, sur la Guyane, par exemple, à différentes périodes. Donc, on est parti des frontières actuelles de la France et on a documenté toute période historique. Et si je prends par exemple l'exemple de la période romaine, pour lequel on a plusieurs provinces, alors en général les provinces gauloises qu'on connaît bien, hein, Narbonnaise, Lyonnaise, Belgique ou Aquitaine, mais les territoires actuels de la France concernent aussi des provinces, les Germanies, concernent les provinces alpines, et donc tous ces territoires-là, on les a représentés dans notre atlas parce qu'ils étaient concernés par les frontières actuelles de la France. Pour la préhistoire, la frontière actuelle n'a évidemment aucun sens. En revanche, c'est un cadre pratique. Alors, on a des cartes assez générales au début, où on part du monde entier, en particulier pour l'apparition des différents hominidés, et puis voir leur diffusion. Et après, sur le territoire actuel de la France, mais également limitrophes, qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on a comme information. Mais c'était vraiment une question pratique, parce que pour construire un atlas comme ça, qui n'a pas d'équivalent, qui n'existait pas jusqu'à présent, il fallait qu'on puisse documenter de la même manière l'ensemble des sites archéologiques.
Ces dernières années, plusieurs ouvrages ont été publiés par l'INRAP, comme La Fabrique de la France en 2021 ou encore Une histoire des civilisations en 2018. Pourquoi un atlas après tous ces ouvrages ? Qu'est-ce que ça apporte ?
Alors, ce n'est pas les mêmes approches, ce n'est pas les mêmes publics. La Fabrique de la France met en avant, on va dire, un certain nombre de découvertes qui ont été faites par l'INRAP en particulier, avec une mise en perspective historique, thématique, etc., qui reste très largement grand public et qui reste un peu focalisé à l'échelle d'un site. Quand on est sur l'histoire des civilisations, là c'est au niveau mondial, c'est avec beaucoup de spécialistes et ça brasse beaucoup plus de données, mais en même temps c'est plus général que ce qu'on pouvait faire avec l'Atlas. Et à la suite du 20e anniversaire de l'INRAP, justement le président Dominique Garcia a souhaité qu'on puisse retravailler un peu sur nos données et avoir un ouvrage qui soit un peu différent. Et l'atlas archéologique, on a regardé, hein, il y a eu des atlas archéologiques par le passé, il y en avait aux éditions Universalis à un moment donné, mais ça n'a pas de rapport avec l'ouvrage qu'on a fait. nous. Et cet ouvrage, il est neuf dans la mesure où on n'a jamais eu ces cartes-là, avec ces données-là qui ont été présentées et mises en perspective de cette manière-là. Voilà, donc on voulait pouvoir restituer les données de l'Institut et plus largement les données de l'archéologie préventive et de l'archéologie tout court. Un public qui soit un public assez large, qui ne soit pas uniquement des spécialistes, qui, ça ne s'adresse pas non plus à des primaires par exemple, hein, ça reste quand même un public plutôt adulte, mais donner des clés de lecture avec des textes qui donnent le meilleur état de la documentation archéologique et l'interprétation qu'on peut en faire à l'heure actuelle.
Mais les cartes, c'est un peu statique, on va dire. Comment des cartes peuvent permettre de recréer des flux, des migrations? Est-ce que ça permet d'avoir un regard là-dessus?
Alors, c'est tout l'art de la cartographe, donc qui est Aurélie Boissière, qui a fait un excellent travail sur chacune des cartes, parce qu'elle est partie des données qu'on lui a fournies. Alors, on avait créé un système d'information géographique qui donnait déjà des données géoréférencées sur fond de plan. Mais la sémiologie, la représentation graphique de ces cartes lui doit beaucoup. Et elle a pu mettre en évidence, alors par des flèches, par des superpositions à des périodes différentes, on a essayé de rendre compte un petit peu de cette dynamique temporelle qui est évidemment fondamentale. Alors on est resté sur 9 grandes périodes, mais bien évidemment chacune des périodes aurait pu être subdivisée et l'archéologue travaille à 25 ans près, donc on a les moyens de faire des cartes beaucoup plus précises, mais ça ne serait pas rentré dans le projet. Et le principe n'était pas de donner une succession de cartes uniquement, mais c'était aussi d'accompagner ça de textes et de photographies qui illustrent chacune des thématiques qui sont abordées dans l'ouvrage. Voilà, donc la carte, c'est un état, on documente autant que possible. Et puis derrière, le texte, il vient donner cette profondeur historique, il vient apporter des éléments de compréhension des différents systèmes de représentation de la carte elle-même.
Et à la fin, vous abordez la question des déchets spatiaux. Si les archéologues s'intéressent aux traces matérielles laissées par l'homme, l'archéologie a-t-elle vocation à aller dans l'espace un jour ?
Ah, très certainement. Ça, je suis persuadé que dans 100 ans, déjà maintenant, hein, les traces des premiers hommes sur la Lune, ça commence à faire déjà quelques années, vous n'étiez pas né. Oui, tout se transforme quelque part, ces traces matérielles. Après, l'archéologue est le mieux placé pour les analyser. Alors, il fait œuvre d'historien, hein, on va dire, en faisant cela. Mais l'objet en lui-même et la trace matérielle, elle est représentative d'un acte, d'une civilisation, d'une culture, dans l'espace comme sur la Terre.
Merci Marc Bouilleron pour votre intervention.
Ben, je vous en prie.
Eh bien, merci beaucoup Antoine pour cette visite à travers les âges. Il est temps pour nous de continuer notre voyage au sein du cinéma. Alors asseyez-vous bien confortablement et laissez Alexandre vous guider par sa production.
Ah, cinéma, cinéma. Nous sommes le 6 janvier 2020 et le cinéaste Bong Joon-ho reçoit le Golden Globes pour son film Parasite. Lors de son discours, il affirme devant la foule, je cite, « Quand vous aurez surmonté la barrière des 2 cm de sous-titres, vous découvrirez des films étonnants. » Alors, pour paraphraser le réalisateur coréen, une langue étrangère est tristement devenue un frein à notre appétence culturelle. Et pour encore préciser, selon Bong Joon-ho, une langue étrangère représente un obstacle afin de découvrir des œuvres cinématographiques. Eh bien, ce que déclare le cinéaste avait fait un peu de remous autour de lui, hein, puisque cette phrase, issue de son discours, avait ouvert le débat, telle une boîte de Pandore, sur une question épineuse, tu préfères la VO ou la VF ? Alors pour être honnête, aucun des deux camps n'a gagné ni perdu, hein, puisque les deux parties ont d'excellents arguments, comme des désavantages. D'un côté, les amoureux de la VO sont si puristes que cela forge le respect, mais ce puritanisme les pousse à les rendre exécrables, tandis que les passionnés de la VF protègent un patrimoine culturel, parfois bien français, mais ne font aucun effort pour découvrir une nouvelle langue.
Mais ce débat a-t-il toujours existé au cinéma ?
Eh bien, je me suis posé cette question, je l'ai tordue dans tous les sens pour pouvoir observer si ce débat existait auparavant, au temps de nos parents, voire de nos grands-parents. Et la réponse est mitigée, puisque si on remonte très loin en arrière, les premiers films au cinéma étaient muets. Ainsi, aucune barrière de la langue n'existait à cette époque. Alors on pourrait se dire que c'est une époque bénie, puisque la frontière linguistique n'existe pas. D'un point de vue intellectuel, j'aimerais juste reprendre le terme du plus grand critique de cinéma des années 1920, Louis Deluc, qui parle d'un cinéma, je cite, « pur, grâce au muet ». Un cinéma universel que tous les spectateurs peuvent comprendre. Et surtout, partout dans le monde. Pour simplifier son idée, que vous soyez britannique, argentin, népalais ou je ne sais quoi, toutes et tous, vous pouvez rire des prestations de Charlie Chaplin. Hein, lorsqu'il tombe de façon burlesque, cela nous fait rire. Lorsqu'il pleure face à la caméra, nous sommes émus. Ainsi, pourquoi avoir besoin de paroles quand les mouvements et la gestuelle du corps expriment autant d'émotions qu'un dialogue ? Et puis, arrive l'année fatidique de 1927, où le film Le chanteur de jazz d'Alan Crosland sort en salle. C'est le film communément accepté comme étant le premier film parlant du cinéma, même si d'autres métrages avaient expérimenté le procédé auparavant.
On parle donc d'un renouveau du cinéma ?
En effet, cette nouvelle technologie qui est d'entendre parler les acteurs et les actrices d'un film prend doucement son essor et atteint sa réelle popularité à partir des années 1930. En France, Cocorico, c'est à partir de 1929 que le public découvre le parlant avec La route est belle de Robert Fleury. Ce n'est pas un succès immédiat, hein, parce que le public français aime et est habitué au muet, mais cela attire doucement les foules. Ce que l'on reproche principalement aux films de cette période, c'est leur lenteur, hein, car il faut penser aux micros de l'époque, très instables, qui ont du mal à enregistrer le son ambiant. Les acteurs et actrices sont souvent rigides, parlent fort et distinctement. En soi, tout le génie du muet, qui était intense, rapide, épousant les mouvements des acteurs, est obstrué par l'arrivée du son. Du moins, ce problème sonore se résout rapidement puisque la technologie évolue. Ces premières questions techniques disparaissent pour laisser place à un art audiovisuel. Et ainsi, l'art pur que décrivait Louis de Luc est mort à tout jamais. Tristement, l'arrivée du parlant a réinstauré des frontières. En effet, si des acteurs et actrices déclament des textes, ils le font dans leur langue maternelle. Tous les films ne sont plus exportables et doivent nécessiter des traductions, des doublages ou bien des sous-titres. Le monde se réimpose des barrières et ce brassage culturel qui était le muet est brutalement interrompu.
Alors l'arrivée du son est définitivement un événement négatif ?
Alors évidemment que non, parce que si je dois quand même trouver un point positif à cette histoire du cinéma, c'est que le parlant a relancé le cinéma que l'on peut définir local. À l'époque, mais aussi aujourd'hui, le plus grand exporteur de films est bien sûr les États-Unis. Et la parole au cinéma a déplu à des spectateurs qui souhaitaient entendre leur langue, pas celle d'un autre. C'est pour cela que le cinéma français, allemand ou encore italien, et tant d'autres, reviennent sur le devant de la scène à partir des années 1930. Donc si je dois conclure, faisons un bond dans le futur, j'aime les rimes, et jetons un œil dans le cinéma actuel. Le parlant est omniprésent actuellement, et la linguistique est devenue ce passeport pour accéder à tous ces films. Pourtant, dans l'état actuel de la mondialisation, de l'arrivée massive des productions étrangères sur les plateformes de streaming, et l'apprentissage constant d'une seconde langue au sein de notre culture et de notre propre éducation, peut-on y voir un renouveau d'un art universel ? Peut-être sous l'égide de la langue anglaise, le cinéma pourrait confluer sous une seule et même bannière afin de faire revivre le souhait de Louis de Luc, créer un cinéma pur.
Merci Alexandre pour cette chronique.
Et nous allons maintenant enchaîner directement avec Antoinette.
Bonsoir Thélem, bonsoir Némi, bonsoir à tous. Alors je vous propose de rester encore un peu dans le monde du cinéma pour parler du film de Matteo Garrone sorti en salle en ce début d'année, précisément le 3 janvier, et intitulé « Moi capitaine ». Donc je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, mais ce film raconte l'histoire de deux jeunes Sénégalais qui décident de quitter leur pays pour rejoindre l'Europe. Pendant 2 heures, on suit à la trace leur parcours migratoire et on découvre notamment les difficultés auxquelles ils sont confrontés. J'ai vu ce film et il m'a particulièrement touchée car je fais partie d'une association d'aide aux mineurs isolés étrangers et donc je connais des jeunes gens qui ont vécu ce qui est raconté dans ce film. Et je me suis dit que c'était l'occasion, avec cette émission, d'échanger avec un jeune que je connais bien et qu'on va appeler Ousmane sur ce que représente la notion de frontière. Je le retrouve un vendredi 2 janvier dans un café du boulevard Haussmann. Il a le visage plus fermé que d'habitude, sûrement car il redoute les instants qui vont suivre. Ressasser des souvenirs douloureux est rarement agréable. Mais il accepte de se livrer à moi car il veut partager son histoire mais aussi l'oublier à force de la raconter. On a alors discuté de son parcours migratoire, qui était le suivant.
Maintenant, concernant la route, bon, j'ai traversé pas mal de pays. Bon, j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour le Mali pour l'Algérie pour le Maroc, l'Espagne et la France. Bon, normalement, ma destination aussi, c'était la France, puisque je m'exprime bien un peu en français. Donc, je ne pouvais pas m'en sortir facilement en Espagne.
Et selon lui, la frontière la plus difficile à traverser était la frontière maritime entre l'Espagne et le Maroc. On l'écoute.
Le plus difficile, c'était la traversée de la mer. C'est cette partie-là qui m'a vraiment marqué. Je ne pensais pas qu'elle allait m'en sortir. Parce que le moteur s'est gâté en pleine route. Par la grâce de Dieu, peu de temps après, on a vu la Croix-Rouge venir nous sauver de l'eau. Sinon, ce n'était pas bon.
Et puis, pendant notre échange, il s'est rendu compte que ce n'était pas la seule frontière qu'Ousmane avait eu à traverser. Il y a en réalité aussi les différences culturelles entre la France et la Côte d'Ivoire, son pays d'origine,
auquel il a dû s'adapter. Pour lui, la langue n'était pas un problème, car non seulement la langue officielle de la Côte d'Ivoire est le français, et en plus de cela, Ousmane, fils de secrétaire, avait l'habitude de ne parler qu'en français avec sa mère. Mais ce qui l'a marqué, à son arrivée en France, c'est la question du respect, des relations interpersonnelles et du rapport avec les instruments de l'autorité. Voilà ce qu'il en pense.
Moi ici, il faut respecter tout le monde, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa manière d'être. Même à l'école, on enseigne là-bas, il faut donner la place à tout un chacun, de respecter sa vie. L'Afrique, c'est ceux qui ont les moyens qui font la loi là-bas.
Mais au cœur de ce récit, on trouve aussi la question de l'âge, de la jeunesse, de l'identité. Voilà comment il décrit l'impact qu'a eu ce voyage, si l'on peut appeler ainsi, sur la personne qu'il est aujourd'hui.
Forcément, le voyage m'a changé. Parce qu'il a vu beaucoup de choses, Antoinette. Il a vu beaucoup de choses que je ne suis même pas prêt à oublier. Et je ne pourrai jamais oublier jusqu'à ma mort. Je suis quitté à 14 ans en Côte d'Ivoire. Je suis rentré en France à 15 ans. C'est-à-dire j'ai fait combien d'années en route? Plus d'un an en route. Ce que moi-même, je ne pouvais pas m'imaginer, j'ai vu ça en route. On est quelqu'un qui voit le danger venir. Et puis quelqu'un qui n'a pas vu le danger venir n'a pas la même manière de marcher. Aujourd'hui en France, moi je suis droit à cause de ce que j'ai vu en route, les difficultés que j'ai vues dans mon pays, la souffrance que ma mère vit au pays. Je suis obligé de rester droit, de prendre mes études au sérieux, avoir un boulot demain et m'organiser. C'est tout ce qui est dans ma tête.
René Roussillon, psychanalyste français, compare d'ailleurs avec pertinence l'adolescence à la migration. Il écrit à ce sujet, je cite, « que l'adolescence et la migration sont deux étapes charnières de la vie, deux moments de passage. Les mutations qui touchent l'adolescent dans son corps le poussent à voir son enfance s'effacer brutalement et à devoir s'adapter à une nouvelle donne. Le migrant, comme l'adolescent, sont ainsi contraints au deuil du monde de l'enfance. » Et puis, il y a aussi la frontière entre le réel et l'imaginaire qu'Ousmane a eu à traverser. Ce qu'il avait imaginé en quittant la Côte d'Ivoire est bien différent de ce qu'il a connu lorsqu'il est arrivé en France. On l'écoute.
Bon, du coup, quand tu regardes dans les médias et autres, c'est quand tu parles à la télé de la France, la Tour Eiffel, comme ça, quand tu viens, tranquille, comme ça. Franchement, moi, je ne pensais pas que c'était comme ça. Je ne pensais pas que la vie de France aussi était un peu difficile quand tu n'es pas intégré.
Et enfin, il y a une dernière frontière qu'Ousmane a eu à traverser. Et c'est pour moi la plus intéressante. C'est son changement de place dans la société, le nouveau regard que les individus posent sur lui en France. En Côte d'Ivoire, Ousmane était un garçon comme les autres, à l'aise dans son environnement, et un brillant élève à l'école. Mais à son arrivée en France, il est catégorisé, comme tant d'autres, à un simple migrant. Il n'existe plus que par ce terme. Voilà ce qu'il en pense.
Dans le début, il ressentit la distance que les gens mettaient entre nous, les migrants, et ceux-mêmes qui vivaient ici en France. C'était compliqué. Par exemple, dans le métro, il y a des personnes qui ne nous faisaient pas confiance. Dès qu'ils nous voient, ils savent que directement on vient d'arriver en France. Donc du coup, ils se méfient de nous. Souvent, quand tu es assis dans le métro, on ne s'assoit pas auprès de toi, on te regarde mauvais. Et surtout, quand tu rentres dans la bouche du métro et puis on dit les pickpockets sont là, directement, c'est toi on vise. Quand quelqu'un ne te fait pas confiance, en retour, ça te fait mal. Ben, en toi, tu sais que tu n'es pas quelqu'un de mauvais, tu n'es pas quelqu'un de bizarre, mais quand quelqu'un se méfie de toi, directement, toi-même, ça te touche.
Comme dirait Sébastien Chapelon, maître de conférences en psychologie, il y a, je cite, « une dissonance entre la perception qu'ils ont d'eux-mêmes et la manière dont les autres les perçoivent ». Mais malgré toutes ces épreuves, Ousmane arrive tout de même à relativiser.
Et je crois que dans toute chose, il y a le côté négatif et le côté positif. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui nous ont touchés, qui font mal, mais au fur et à mesure, moi, je vois qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité d'aller à l'école, d'apprendre.
Je vais vous laisser sur cette note positive. Aujourd'hui, Ousmane est en CAP métallier. Il m'a montré fièrement son bulletin, il y a quelques semaines, et toutes ces bonnes notes font plaisir à voir. Je voulais donner la parole à ce jeune homme, de seulement 16 ans, pour entendre sa vision des frontières et pour changer notre regard sur lui et sur tous les autres.
Sur les conseils d'Ousmane, Ati et Dayo, un son de Ruth Tundey, une chanteuse très connue en Côte d'Ivoire.
Je vous propose de passer à notre prochaine chronique. Lilia, c'est à vous.
Merci beaucoup. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point était tangible la frontière entre la vie et la mort ? Est-il tout bonnement imaginable de franchir cette frontière tant redoutée et avoir la possibilité de revenir de l'un de ces deux mondes ? Êtes-vous, chères auditrices et chers auditeurs, tout simplement effrayés à l'idée même de la mort et le fait de la toucher du bout des doigts? Eh bien, certains d'entre nous sur cette planète ont vécu cette expérience, et tous en reviennent profondément changés. J'ai senti qu'ils guérissaient toutes les blessures de mon corps et qu'ils enlevaient toutes les couches de souffrance de ma vie jusqu'au plus profond de mon âme. Je me suis sentie complet pour la première fois et j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais joué la comédie tout au long de ma vie. Témoigne David Ditchfield, un homme de 46 ans. Prenez place, je vous prie, au cœur de ce voyage aux confins de la conscience. Et laissez-moi, si vous le permettez, vous initier à ce sujet passionnant. Avez-vous auparavant entendu parler de l'expérience de la mort imminente, plus communément appelée EMI, peut-être en regardant la télévision ou en écoutant la radio? De plus en plus nombreux sont les témoignages relatant de cette expérimentation hors du commun. Il est ainsi fort probable que vous ayez au moins eu vent de son existence. Nonobstant, si ce n'est pas le cas et que vous souhaitez approfondir vos connaissances sur ce thème, écoutez attentivement, ma chronique est faite pour vous. Une définition fondamentale à rappeler concernant ces expériences, elles surgissent majoritairement à la suite de comas, de lourdes opérations ou d'accidents, et se caractérisent alors par des visions ou des sensations exceptionnelles vécues par une personne qui est confrontée à sa propre mort. Cette expérience est alors le parfait synonyme représentant la sensation de pouvoir traverser les barrières physiques. En d'autres termes, du monde dans lequel je suis en train de vous parler et celui où vous recevez mes paroles. Le réel et l'imaginaire tendent à se confondre. Imaginons alors un instant être à la place d'une personne vivant une expérience de mort imminente. Plusieurs manifestations existent alors. Chacun d'entre nous pourrait soit devenir le spectateur du film des moments les plus importants de sa vie et les revivre précisément, ou bien la vision d'un tunnel d'une blancheur des plus étincelantes pourrait nous éblouir avant d'apercevoir la silhouette d'un de nos proches décédés, pouvant se revêtir sous la forme d'un ange gardien. Imaginez dès lors votre âme emparée d'une harmonie et d'un apaisement sans nom. Vous y voilà, vous avez dépassé les frontières. Petit point historique, mais nécessaire en somme. Les EMI sont tardivement médiatisés, et ce, au grand regret de ses expérienceurs. D'abord, grâce à l'œuvre du médecin et psychiatre américain Raymond Moody, il a ainsi pu réaliser son œuvre suite au témoignage de plusieurs patients venant de sortir du coma. Mais cela se produit uniquement dans les années 1970. C'est excessivement tardif. Nous pouvons également souligner l'importance des rapports tenus par Elisabeth Kubler-Ross, elle aussi psychiatre américaine, qui recueille ses précieux témoignages et initie largement la visibilité nouvelle de cette thématique. On parle par exemple du cas du golfeur pris d'une bouffée de chaleur insoutenable et qui, durant ce moment, a vécu tous les moments de sa vie au ralenti. Auparavant, tout propos relatif à ce sujet et toute sensation qui en découle était considéré comme pure affabulation. Par ailleurs, certains pensent, et encore aujourd'hui, que ce phénomène est scientifique et qu'il est dû à un manque d'oxygène dans le cerveau ou encore provoqué par la kétamine. Cependant, il a été prouvé que celle-ci ne produit pas ce genre d'expérience, auquel cas tout le monde en prendrait pour la vivre. Le point commun dans l'entièreté des témoignages que nous avons pu récupérer aujourd'hui est la notion de décorporation. Tous parlent de la conviction profonde d'être mort, mais ce, en étant conscients. Certains voient même leur propre corps, qui n'est désormais qu'immatériel. Ils adoptent un point de vue omniscient. C'est le cas par exemple des accidentés qui se voient en premier lieu au-dessus de leur corps et témoignent avec précision des soins que le médecin urgentiste seul leur a prodigués. Une connotation mystique au point de ne plus pouvoir revenir matériellement dans le monde. Quand ces personnes miraculées reviennent dans notre monde, quels sentiments ont-elles éprouvé durant cette expérience unique? Eh bien, dans la majorité des cas, elle est perçue comme agréable, tout de même bouleversante compte tenu des épreuves traversées et de la bascule entre ces deux univers. Une autre question essentielle apparaît à nous, et ce serait tout à fait légitime, chers invités et auditeurs, que vous vous la posiez également. Comment reconnaître et certifier qu'une personne a réellement vécu une expérience de mort imminente? Eh bien, c'est Bruce Grayson qui a déjà envisagé de résoudre cette interrogation, et dans cette optique, il crée en 1983 une échelle de mesure de 16 questions. Si plus de 7 réponses sont positives au test, nous sommes bien en présence d'EMI. Lorsque vous vivez une expérience de mort imminente, elle est si incroyablement, si puissamment réelle, si intense, que votre vision de la réalité en est à jamais changée, disait le docteur Steve Taylor. Il m'est désormais cher de vous parler du magnifique livre « Enquête sur l'existence des anges gardiens » écrit par l'éminent Pierre Jovanovitch, entre autres journaliste. Son œuvre a alors fêté récemment ses 30 ans et nous allons de suite écouter sa première confrontation avec la frontière de la mort racontée par sa propre personne. J'ai ainsi eu plaisir à le contacter et celui-ci m'a généreusement renvoyé vers sa vidéo remarquablement intéressante où il prend plaisir à nous conter toutes les coulisses.
Je me souviens d'un événement qui m'avait prodigieusement marqué, je pense que je devais avoir 6 ans ou... Tout d'un coup, je voyais tous les voisins des maisons où tout le monde accourait et se dirigeait vers une autre maison où habitait une jeune femme. Enfin, pour moi, quand vous avez 5-6 ans, tout vous semble grand ou géant, etc. Mais je pense qu'elle devait avoir peut-être 20, 23 ans, 24 ans. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à courir? Il y a quelque chose d'important. En étant petit, donc, je me suis vraiment faufilé entre les adultes. Et en fait, je me suis retrouvé devant cette dame qui s'était pendue. Je me souviens, mais ça m'avait choqué, dans le sens où elle avait les yeux ouverts, elle avait des yeux bleus absolument extraordinaires. Son regard m'avait véritablement marqué. Et à un moment donné, des adultes se sont rendus compte que j'avais rien à faire là, donc ils m'ont sorti de là, ils m'ont accompagné chez ma grand-mère. Et je me souviens que dans l'après-midi, on est parti à la campagne chez des gens qui avaient des jardins immenses, immenses, genre 2 hectares avec des cerisiers. Et je me souviens que je me promenais entre les arbres et d'un seul coup, j'ai vu cette femme. Je l'ai vue devant moi telle que je vous vois là. Elle me regardait avec un air perdu, un air quasiment comme surprise. Et en même temps, c'est comme si elle me suppliait d'une aide. Et moi, j'étais terrorisé. À l'époque, je ne pouvais pas savoir que je voyais son corps, enfin son âme. Je la voyais en transparence, mais je la voyais véritablement. En fait, elle était entre les deux mondes. Voilà, elle était perdue et elle m'a suivi, moi. Je ne sais pas pourquoi.
Il explique ainsi que les premiers témoignages qu'il a découverts ont provoqué cette passion pour les anges gardiens. Le premier cas trouvé dans les périodiques des médecins est celui d'une jeune fille de 6 ans qui se noie. Par la suite, l'ambulance constate qu'elle est morte pendant 10 minutes, du moins, jusqu'à son arrivée à l'hôpital. Le médecin réussit à retrouver le pouls de la jeune fille, car je cite, il n'avait pas d'autres cas urgents à traiter. En effet, cette situation est habituellement considérée comme mort clinique absolue. À son réveil, elle raconte qu'elle a vu le médecin mettre le tube dans son nez. C'est par alors le seul à le faire dans la clinique. Elle décrit également la vision d'une dame qui, je cite, brillait comme une ampoule électrique et lui affirmant « Je suis ton ange gardien ». Pierre Jovanovitch, pour sa propre expérience, nous informe qu'il n'a rencontré son ange gardien seulement à 50 ans. Il n'avait pas d'aile, mais scintillait de couleurs visibles uniquement pour des yeux spirituels. Il affirme alors que plus on prie, plus on transforme cette énergie. Il est nécessaire de parler à son ange gardien et de lui confier tous ses soucis. Pour lui, l'essentiel est de ne jamais abandonner. Comme Pierre Jovanovitch l'affirme si harmonieusement, vous avez tous un ami très haut placé. Sur ces paroles criantes de vérité, je vous prie, après ce voyage en votre compagnie, de me laisser vous remercier infiniment, chers invités et auditeurs, d'avoir pris le temps de m'écouter, en espérant avoir pu vous éclairer sur ce sujet qui me tient tant à cœur et dont, je l'espère, fait également partie du vôtre désormais.
C'est un petit peu flippant à imaginer, mais merci.
Avec plaisir.
À présent, nous allons écouter Sébastien, qui aura l'honneur de donner une dernière révérence à cette émission spéciale. Alors, cette chronique se nomme « Les frontières de l'inconnu ». Sébastien va s'intéresser aux réactions que l'on pourrait avoir lorsqu'on est en situation de peur de l'inconnu ou d'être tenté de le connaître. C'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Je vais inviter les auditeurs à réfléchir à leur propre comportement en s'immergeant au travers de différentes situations que je vais aborder. Par exemple, quelle réaction aurez-vous si une soucoupe volante s'approchait de vous à 50 mètres ? Pour commencer le sujet, on pourrait réfléchir à la définition de frontière et inconnu. Ça pourrait très bien être deux zones caractérisées par des phénomènes physiques ou humains différents, dont ce que l'on va trouver, voir après le dépassement de la zone, est ignoré quant à sa nature, ses caractères.
Ok, merci pour ces définitions. Mais quel exemple nous proposes-tu pour illustrer les frontières de l'inconnu ?
Alors j'ai quelques exemples que je vais utiliser en fonction de deux approches. Alors que certains seraient attirés par l'inconnu comme une source de croissance et de possibilités, et donc franchiraient cette frontière de l'inconnu, d'autres peuvent l'apercevoir avec méfiance en raison des incertitudes qu'elle pourrait représenter, et donc ne pas la franchir. Alors, par exemple, pour des personnes qui pourraient, en tout cas pour la plupart d'entre nous, être attiré par l'inconnu. Imaginez-vous, c'est peut-être déjà arrivé pour certains d'entre vous, à la rencontre d'une nouvelle personne vers qui on serait attiré pour sa beauté, sa connaissance ou pour d'autres raisons d'ailleurs. On va réfléchir à comment aborder et faire connaissance de cet inconnu. J'ai un autre, d'autres exemples. La découverte de nouveaux territoires, avec par exemple la conquête spatiale, marcher sur la Lune, découvrir une forme de vie sur Mars. Mais si on va plus loin, qu'y a-t-il au-delà de notre système solaire vers d'autres galaxies ? Notre propre double ? D'autres formes de vie ? Comment aborder cette rencontre ? Et pourquoi vouloir aller au-delà de la Terre ? Monteriez-vous dans un prochain vaisseau spatial pour aller dans une autre galaxie ? Après la conquête spatiale, on pourrait très bien faire référence à la conquête sous-marine. Le royaume des abysses représente l'un des milieux les moins explorés de la planète en raison de plusieurs difficultés, la pression exercée par l'eau et la lumière du soleil absorbée par l'eau qui ne va pas en dessous de 1000 mètres de la surface. Cela en fait donne à peu près 5% des profondeurs océaniques qui sont seulement véritablement explorées aujourd'hui. Au point que nous avons une meilleure connaissance de l'espace que des océans et des mers. Les fonds marins doivent certainement nous réserver pas mal de surprises. Au regard des probables découvertes et rencontres sous-marines, oseriez-vous faire une expédition demain dans le royaume des abysses ? Dernier exemple, ça serait se découvrir soi-même. Un nouveau soi-même que l'on n'aurait jamais pensé. Cela peut se produire lorsque l'on est confronté à de nouvelles situations ou défis qui nous poussent hors de notre zone de confort. Ces moments peuvent révéler des forces et des talents cachés dont nous n'étions pas conscients auparavant. Seriez-vous prêt pour déclencher une expérience de la découverte de votre nouveau soi-même ? Alors que je viens de vous présenter des exemples pour lesquels on pourrait être attiré par l'inconnu, on va essayer d'aller dans l'autre versant et pour lequel on pourrait avoir une forme de méfiance de l'inconnu. Au Moyen-Âge, dans de nombreuses cultures, les forêts et les montagnes étaient souvent perçues comme des lieux mystérieux et inquiétants, peuplés de créatures surnaturelles et de dangers inconnus qui échappaient à notre volonté de maîtrise et de contrôle. Tout le monde a déjà entendu parler de dragons, de griffons, de sorciers, sorcières, de démons, ogres et bien d'autres créatures imaginaires. Au temps du Moyen-Âge, seriez-vous prêt à vous aventurer dans les denses forêts et hautes montagnes avec le risque de rencontrer une créature? Je prends un autre exemple, la célèbre zone 51. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Vaisseau spatial, l'extraterrestre Roswell, des expériences secrètes? Si vous n'étiez pas menacé par le risque d'être abattu par les gardes, auriez-vous le courage et la curiosité d'entrer dans la zone 51 et d'affronter l'inconnu et les impacts éventuels que cela pourrait provoquer? Un dernier exemple, qui est d'actualité, c'est l'intelligence artificielle. Certaines personnes redoutent que l'intelligence artificielle dépasse un jour l'intelligence humaine et prenne le contrôle du monde. Accepteriez-vous la présence dans votre foyer d'un robot de compagnie doté d'intelligence artificielle?
Merci Sébastien pour ces exemples. Et du coup, quelle conclusion, peux-tu faire de ces frontières par rapport à l'inconnu?
La conclusion, eh bien, ça serait de parler de science. La science elle-même est constamment aux frontières de l'inconnu. Elle est toujours à la recherche de nouvelles découvertes et de réponses à des questions encore inexplorées. Les frontières de l'inconnu sont en constante évolution. Par exemple, l'intelligence artificielle est un domaine qui repousse les frontières de l'inconnu. En définitive, on pourra dire que ce qui est inconnu aujourd'hui peut devenir connu demain grâce au progrès de la science et de la technologie.
Merci Sébastien, quel discours! Nous te remercions pour ce travail et les recherches accomplies qui englobent la notion de frontière.
Sans frontières. Sans frontières. Sans frontières.
Alors tout d'abord, merci d'être venu à chacun. Chacun de vos points de vue, de vos thèmes étaient fantastiques.
Touchants.
Instructifs.
Hors du commun.
Géniaux, quoi, on peut le dire, effectivement.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Vous êtes bien sur Radio Campus et c'était Paroles sur Frontières sur la 93.3 FM.
Bonne soirée à tous. Nous, on vous laisse sur Qui s'y a mon œil de Paolo Conte. Jingle.
Paroles.
Siamo noi e dove andiamo noi, a mezzanotte in pieno inverno ad Alessandria. Chi siamo noi col collo del paltò tirato su nel vento di Torino? Bastien Cabot andava in pieno mare, intorno a lui la curiosità spalancava allora in un sospiro il suo ventaglio di meraviglie americane. E si calmava in una rumba senza fine. Chi siamo noi e dove andiamo noi? siamo noi e dove andiamo noi? Nello sbadiglio immenso di Milano. Chi siamo noi? Che ci diciamo noi? Nel sonno spalancato sul silenzio. Era già così. Vasco da Gama.